OK, on va aller dans Exode au chapitre 3. C'est notre texte de départ, vous allez comprendre pourquoi, mais c'est pas le texte que nous allons sur lequel nous allons nous arrêter le plus longtemps ce matin. Mais je vais vous prêcher un message un peu différent. Pas si différent, mais un peu différent. Vous allez voir pourquoi. Le titre du message, il est pas mal plate, là. Je veux dire, j'ai pas trouvé une introduction à la sainteté de Dieu. Je veux dire, c'est pas très original, là. Mais c'est vraiment ça, par exemple, parce qu'on parle de la sainteté de Dieu, puis je veux introduire des choses assez particulières que j'avais même pas remarquées. Tu sais, quand on prend une concordance, avez-vous déjà fait ça? Prenez une concordance, des fois, chercher des choses. On apprend beaucoup de choses avec une concordance. Parce que la Bible s'explique par la Bible, puis souvent, on regarde, « Ah, oh, j'avais pas vu ça. Ah, oh, je savais pas ça. » Ben, ça a pas mal donné ça, surtout avec ce que je vais vous présenter en introduction, sur la sainteté de Dieu. Donc là, on est dans Exode, au chapitre 3, avec notre cher ami Moïse. Et on va commencer au verset 1, mais surtout, je veux qu'on s'arrête sur le verset 5. « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. » Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse! » Et il dit, « Me voici! » Verset 5, Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Merci Seigneur qu'on peut prendre un peu de temps comme ça pour s'arrêter avec ta parole. On sait que toutes choses dans ta parole sont inspirées par toi-même. On sait que tu as dirigé pour l'Ancien, le Nouveau Testament, nous révéler qui tu es, nous révéler ta sainteté et tout ce que ça l'englobe. Merci Seigneur qu'on peut ce matin avoir ta parole entre les mains afin de découvrir quel grand Dieu merveilleux, incomparable, unique tu es. Toi, Saint-Esprit, c'est toi qui nous enseignes. C'est toi qui magnifies le Seigneur Jésus-Christ à nos yeux, dans lequel habite toute la plénitude de la divinité de Dieu. Et on prie, Seigneur, que tu nous révèles ton Fils ce matin. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Quand on, comme je vous dis, quand on regarde dans une concordance, si on fait une petite recherche, on regarde le mot « saint », et toutes les dérivées, saint, sainteté, saint au masculin, sainte au féminin. Bien, si vous faites ça, vous allez constater quelque chose de particulier. Donc, vous pouvez vérifier, faire vos bériens si vous voulez, après le message. Faites pas ça maintenant, là, mais vous pouvez aller voir, vous allez constater la même chose. C'est que, premièrement, je ne sais pas si vous saviez, mais la première référence au mot saint, c'est ici dans Exode. Je veux dire, il n'y a pas de référence au mot saint dans la Genèse. Ça veut dire que la Genèse n'est pas inspirée? Non, ça veut dire que le Saint-Esprit en a décidé comme ça. Donc ici, c'est la première mention du mot « saint ». Il est au féminin parce que c'est la terre sainte, dans Exode 3:5. Et évidemment, c'est pour qualifier la terre où est-ce que Moïse est. Et quand on dit « terre sainte », c'est la terre qui a été mise à part. Le mot « sainteté », donc, c'est un bel exemple, ça ne veut pas juste dire sans péché, ça l'inclut ça, mais c'est pas la terre sans péché. C'est la terre que Dieu a mise à part pour son peuple. C'est la terre que Dieu a désignée dans son plan rédempteur et avec tout son peuple et tout ça. C'est la terre sainte, la terre désignée par Dieu, OK? Bon. Et donc, ici, ben, on sait, non seulement il était sur une terre sainte, mais Dieu se révéler à lui. Hein? Il a donné son nom, « Je suis », il a révélé qui il était. Et évidemment, on sait que ça l'implique que c'est ça aussi unique, à part, incomparable, le fait que Dieu est le grand « Je suis », c'est le seul Dieu comme ça. Dieu est à part, unique, il est autre, il est sans comparable dans ce monde et dans cet univers. C'est ça l'idée de la sainteté de Dieu. Maintenant, ça, c'est bibliquement parlant, dans l'ordre biblique, mais même chronologiquement, parce qu'on croit que le livre de Job est plus ancien, a été écrit même après, avant la Genèse, parce que c'est Moïse qui a écrit la Genèse, Job était avant ça. Et donc, peut-être la première mention historique, c'est dans Job, du mot saint, c'est dans Job 6:10, et là, ça réfère à Dieu. Ça réfère à Dieu comme étant le saint. Je n'ai point transgressé les ordres du saint. OK? Bon, si on continue à voir un peu ce mot-là, le mot saint dans les Écritures, on remarque que ces premières références-là à la sainteté de Dieu, à la sainteté, à ce qui est saint, majoritairement, et c'est ça qui est surprenant, ça ne réfère pas à Dieu. Ça réfère à des choses. À des choses saintes. Okay, par exemple, il y a une grande abondance du mot saint dans Exode et Lévitique, parce que ça décrit le lieu saint, le lieu très saint, les sacrificateurs, la nourriture qui est sainte, la terre sainte, des choses très saintes, des saintes offrandes à l'Éternel. Okay, on voit ça beaucoup, beaucoup. Bon, spécialement dans ces deux livres-là, mais aussi à beaucoup d'autres endroits. Donc, ça fait ressortir ceci. Que Dieu veut mettre de l'avant, okay, sa sainteté. Okay, ça, c'est quand on regarde comment Dieu a révélé ici, dans les Écritures, sa sainteté. C'est pas premièrement comme, par exemple, dans Exode 15, c'est le cantique de Moïse, puis Dieu, ça dit que Dieu, tu es remarquable dans ta sainteté. Un peu comme on a chanté là, Dieu, ah, tu es immortel, invisible, il y a juste toi qui es comme ça. Ou comme dans Ésaïe, c'est drôle que ça a été cité ce matin, mais dans Ésaïe 6:3, que ça dit que l'Éternel est saint, saint, saint. C'est pas comme ça que Dieu a décidé de révéler sa sainteté premièrement dans les Écritures. On voit des passages de même, et certainement, Dieu est saint et il se révèle comme étant saint, mais quand on regarde la majorité des références à la sainteté, c'est à travers des choses. Et donc, je crois que Dieu veut révéler sa sainteté à travers l'instrumentalité de ce qui allait devenir les éléments de l'adoration, de la relation quotidienne avec lui. OK? Donc, Dieu révèle à des choses qui sont saintes parce qu'ils sont en relation avec lui, dans tout ce qui est dans, OK, justement, le lieu saint, le lieu très saint, la terre sainte. Puis, ça a rapport avec quand tu rentres en contact avec Dieu, ces choses-là sont saintes parce qu'elles viennent de Dieu. OK? C'est ce qui ressort de notre étude du mot saint dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Et là, peut-être vous demandez, c'est-tu pareil dans le Nouveau? La réponse est oui. Dans le Nouveau Testament aussi, majoritairement, quand le mot saint et toutes ses dérivés, là, saint, sainteté, ok, est utilisé, c'est comme un qualificatif. Encore là, pour référer à ce qui est en relation avec Dieu. Pas Dieu lui-même, mais ce qui est en relation avec Dieu. Par exemple, la ville sainte, le saint lieu, le saint enfant, référant à Jésus-Christ. Les saints anges, les saints prophètes, les saints hommes, les saintes femmes, les saintes écritures, les saintes lettres, la sainte montagne, notre très sainte foi. Voyez-vous? Ça réfère à des choses qui sont en rapport avec Dieu. Donc, vous comprenez l'idée ici? C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, tout ce qui touche à Dieu, toutes les choses, les personnes avec lesquelles Dieu rentre en relation rédemptrice, deviennent saintes. C'est pas mal ça qu'on peut retirer. Êtes-vous encore tout le monde avec moi? J'espère. Ça, c'est le bout de technique du message. Après ça, on va aller dans des affaires plus... mais c'est important à comprendre, OK? Donc, tout ce qui touche, tout ce que Dieu touche, les choses, les personnes avec lesquelles ils vont rentrer en relation, dans son grand plan rédempteur, en relation rédemptrice. Vous rappelez, on a déjà parlé de ce thème-là. Ça devient saint. Maintenant, voici où ça devient vraiment intéressant. OK? Là, j'ai parlé des choses, mais il y a une exception. Quelle personne de la Trinité, on sait un Dieu en trois personnes, est caractérisée par le qualificatif saint, le Saint-Esprit? Ou des fois, on dit l'Esprit Saint, mais... Okay? Des fois, ça dit l'Esprit, juste l'aimer. Vraiment, ça parle aussi des fois, tu sais, ça dit Saint-Père, Jésus quand il prie au Père. On a dit tantôt le Saint-Enfant. Ça arrive des fois que les deux autres personnes de la Trinité ont ce qualificatif-là, mais pas de façon systématique comme le Saint-Esprit. OK? Et il y a quelque chose de significatif là-dedans. Voici, je pense, le bon. OK? On tire des leçons de ce qu'on observe. Voici ce qu'on peut apprendre de tout ce que je viens de vous dire là, tout comme Dieu communique sa sainteté à travers l'instrumentalité de toutes sortes de choses dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, il communique parfaitement cette sainteté maintenant à travers l'instrumentalité de son Fils. Dieu devenu chair. Vous voulez savoir c'est quoi la sainteté de Dieu? Regardez au Fils. Avant, c'était des choses, c'était comme des objets, des leçons d'objets dans l'Ancien Testament. Maintenant, tout est pleinement révélé dans le Fils. OK? Personne n'a jamais vu Dieu. Hein? Le Fils qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Et donc, qu'est-ce que la Bible nous dit sur le Saint-Esprit par rapport à Jésus-Christ? C'est lui qui nous révèle Jésus-Christ. C'est lui qui nous convainc de péché, de justice, pas de la nôtre, de celle de Christ. Cette justice sainte, incomparable, qui est propre à Dieu. Puis le Saint-Esprit prend les choses que Christ a dites, puis nous les enseigne. OK? Bon. Donc, on peut dire que le Saint-Esprit, c'est l'agent divin qui nous transmet à nos cœurs même. On va le voir dans le passage qu'on va regarder dans un instant. Il nous transmet à nos cœurs même les leçons, les vérités, la puissance spirituelle de tout ce qui a rapport à la sainteté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et nous, en tant que croyants du Nouveau Testament, c'est spécialement centré sur Jésus-Christ. Mais il va faire ça quand on lit un passage de l'Ancien Testament. Il va prendre les choses qui sont là. Puis comme un peu à la petite école, des leçons d'objets, ça nous enseigne comment Dieu est saint, comment il est incomparable, comment il n'y en a pas d'autre comme lui. Le Saint-Esprit fait ça. C'est son rôle principal. De nous enseigner la sainteté, l'unicité de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ce matin? Ça veut dire que c'est même pas possible de se lancer dans une étude de la sainteté de Dieu comme on s'apprête à faire pour le mois de novembre. C'est pas possible de la faire pour qu'elle soit dynamique, efficace, qu'elle porte du fruit, sans l'œuvre de conviction, sans l'enseignement du Saint-Esprit. Et ça, ça m'amène au texte que je veux qu'on considère aujourd'hui. Tournez avec moi dans 1 Jean. Dans 1 Jean, j'aimerais qu'on considère un beau texte des Écritures. On va le lire. On va lire un verset. On va en lire d'autres là, tantôt, mais je veux juste en lire un. Dans 1 Jean 2, 27. Et je veux vous faire remarquer une expression qui est au tout début du verset, par la fin du verset. 1 Jean 2, 27, tout le monde est là? 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ici, Jean est le seul à utiliser cette expression pour référer au Saint-Esprit. Quand il parle de l'onction, il parle du Saint-Esprit qui habite dans les enfants de Dieu. Et c'est un mot qui nous renvoie à l'Ancien Testament. L'onction, ça nous réfère à ce que, d'ailleurs, Jésus-Christ, ça veut dire « loin de l'Éternel », celui, OK. Puis l'onction, c'est un geste qui était fait pour montrer que Dieu désignait quelqu'un qui le consacrait. Ça nous parle directement de sainteté, c'est-à-dire cette personne-là est consacrée à l'œuvre de Dieu. Okay? Elle est sanctifiée. Et ça, il y avait le symbolisme, on versait de l'huile sur sa tête. C'est ça que ça dit dans le psaume 133. Même l'huile allait, il en mettait pas mal parce que ça descendait jusqu'à sa barbe et tout ça. Et l'huile, on sait, c'est consistant dans le... consistant. Ça ne se dit pas, je pense. C'est constant. Consistent. Consistant. On dit ça en cuisine, mais je ne suis pas sûr qu'on dit ça à l'église un dimanche matin quand on prêche. Mais en tout cas, je vous ai cuisiné quelque chose, je pense, un matin. Mais on voit ça avec constance, l'expression de l'onction qui est amenée avec l'huile. L'huile est un symbole du Saint-Esprit. Et donc, on sait que ça, c'est un bel exemple de leçon d'objet. Il y avait de l'huile qui était versée sur la tête des sacrificateurs et des rois. Savez-vous que c'est accompli pour nous en Jésus-Christ par le Saint-Esprit? Depuis qu'on est salué, depuis qu'on est sauvé, Christ a fait de nous des prêtres et des rois. Nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal. Ça nous dit aussi dans Apocalypse 1:5 qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. OK? Donc, ce qui était symbolisé dans l'Ancien Testament, c'est accompli par le Saint-Esprit, l'onction, comme on l'a vu là. Dieu, avec l'œuvre de salut qu'il a faite dans nos vies, ceux qui sont ici, qui sont des enfants de Dieu, vous avez été oints. Vous avez été mis à part. Et maintenant, vous êtes un sacerdoce. Ça, c'est le côté prêtre. Royal. On est les deux à la fois. OK? Maintenant, c'est par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on voit comment c'est primordial. Si on parle de sainteté, il faut qu'on parle du Saint-Esprit. On ne peut pas aller nulle part en étudiant la sainteté de Dieu sans commencer par le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné pour la communiquer. Pensez-y. Sans le Saint-Esprit, on ne comprend absolument rien de ce qui est de Dieu. Vous savez où on peut passer? Il y a des gens qui passent des vies dans des séminaires à étudier la Bible, puis ils ne comprennent rien. Ils ne sont pas sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit qui les enseigne. Ces choses sont discernées spirituellement. Puis, ce que je veux vous dire, c'est que le Saint-Esprit va nous enseigner ce qui est saint, ce qui est à part. Pourquoi quelqu'un passe une vie dans des bibliothèques puis dans des livres à écouter puis qu'il ne comprend pas? Parce qu'il comprend ce qui est profane, il comprend ce qui est humain, mais il ne comprend pas ce qui est saint, ce qui est à part. Il ne comprend pas les richesses incompréhensibles de Christ, parce que ça, c'est juste le Saint-Esprit qui peut nous les faire comprendre. Ce n'est pas humain. Pour ça, je dis, si on veut comprendre la sainteté de Dieu, il faut commencer par le rôle du Saint-Esprit. C'est lui qui nous enseigne les choses incomparables, uniques, qui sont juste de Dieu. Il n'y a pas d'autre façon de le comprendre. OK? Donc, juste avant de plonger dans notre texte, savez-vous que le Saint-Esprit, non seulement il enseigne ça à nos pensées, à nos cœurs, OK? On est transformé par le renouvellement de l'intelligence, par ce Saint-Esprit, mais aussi dans nos vies, hein? C'est par le Saint-Esprit qu'on offre nos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. On ne peut pas offrir un sacrifice saint, un sacrifice qui est à part. On ne peut pas l'offrir par nous-mêmes. Tout est par le Saint-Esprit. OK? Donc, c'est pour ça que c'est tellement important qu'on comprenne le rôle du Saint-Esprit par rapport à la sainteté de Dieu. Et on va voir, on est dans 1 Jean au chapitre 2, trois caractéristiques de l'onction du Dieu Saint qui nous a été donné. D'abord, on va reculer un petit peu, on va aller au verset 20. On va voir d'abord qu'elle nous provient du Dieu Saint. Cette onction, la première caractéristique, c'est qu'elle nous provient du Dieu Saint. Regardez au verset 20. Pour vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est Saint. Et vous avez tous la connaissance. Donc, on voit, hein, l'onction, le Saint-Esprit, nous a été donné par le Dieu Saint. Okay? Ce n'est pas une origine humaine, c'est une origine divine. Et ça dit la conséquence, vous avez tous la connaissance. Et ça, c'est un accomplissement prophétique. Jérémie avait dit, tous connaîtront Dieu. Ce n'est pas une affaire universelle, tout le monde sur la terre connaît Dieu, mais tout, parce que c'est une prophétie sur la Nouvelle Alliance, à cause du Saint-Esprit qui est dans les enfants de Dieu, tous ont la connaissance de Dieu. Et ça, c'est la conséquence. Donc, c'est la conséquence directe d'avoir le Saint-Esprit, c'est d'avoir la connaissance de Dieu. Et on comprend, on ne parle pas juste de connaître des choses au sujet de Dieu, mais de connaître Dieu. Et le connaître d'une façon personnelle, d'une façon intime. Et c'est le Saint-Esprit, dans ce sens-là, qui va nous enseigner, qui va illuminer les vérités de Dieu qui ne sont pas de ce monde. Qu'on ne trouve pas. Savez-vous, on parle de choses ici que ça nous dit dans la Bible que l'homme naturel ne les comprend pas. OK? Mais c'est spirituellement qu'on les comprend. Et ça, le Saint-Esprit nous enseigne ces choses. Il nous enseigne les choses qui sont propres à Dieu, qui sont saintes. Maintenant, l'Ancien Testament, ce n'est pas quelque chose qui est juste de nous. Savez-vous, dans l'Ancien Testament, là, Dieu faisait ça. C'était comme la petite école. Puis je ne dis pas ça d'une façon méprisante, mais c'est Dieu, sa révélation est progressive. David, Abraham, Moïse, les prophètes, il y avait l'Esprit de Dieu qui faisaient la même chose. Quand ils allaient porter leurs brebis, quand il y avait le tabernacle et tout ça, Dieu leur pointait tout ce qui est de Christ et tout ça. Comme à la petite école, c'était des leçons d'objets. En fait, dans l'hébreu, ça dit que c'était des choses élémentaires ou rudimentaires. C'était des choses simples pour montrer des vérités divines. Et c'était ça le but, hein? Vous savez que Abraham, David, les prophètes, là, ils se faisaient enseigner la sainteté de Dieu, comment Dieu est unique et tout ça, par Dieu lui-même, avec ces choses-là. Maintenant, nous, dans le Nouveau Testament, tout est concentré en Jésus-Christ. Après avoir, à plusieurs reprises et de diverses manières, parlé à nos pères par les prophètes, OK, puis aussi toute la loi et tout ça, Dieu, dans ces derniers temps ou jours, nous parle par qui? Par le Fils. Et donc, la pleine révélation de Dieu, de qui il est, de sa sainteté, c'est tout dans le Fils. Vous voulez connaître Dieu? Connaissez Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on a tant de chants, puis qu'on parle de Jésus-Christ autant, parce que le Saint-Esprit met le spotlight sur Jésus-Christ qui nous révèle pleinement qui Dieu est. Jésus est le Verbe incarné et celui qui nous a révélé le Père. Et Dieu nous a donné son Esprit, non seulement pour nous instruire, mais pour reproduire, pour former son Fils en nous. Galates 4, 19. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Puis c'est lui qui nous communique intimement la sainteté de Dieu qui lui est propre. Et ça, mes amis, c'est le plus grand avantage, bénéfice, privilège d'être un enfant de Dieu. On est enseigné de Dieu même sur les choses qui sont propres à Dieu. Pensez à ça, là, ce matin. En tant qu'enfant de Dieu, à cause de l'Esprit de Dieu, on se fait enseigner des choses que il n'y a pas une religion du monde, il n'y a pas une philosophie de ce monde, il n'y a pas une école de pensée qui est capable d'enseigner ça. Puis c'est pas humain, là. C'est pas parce que nous, on est smart, là. C'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui enseigne, OK? Puis, vous savez, quand quelqu'un vient d'être sauvé, hein, Chris, ça fait combien de temps? Chris, ça fait un an et demi, deux ans, à peu près, que tu es sauvé. Chris, you've been saved about 2 years, right?
What?
Saved. You've been saved about 2 years. OK. Quand il a été sauvé, puis je sais, il m'a partagé son témoignage, puis on parle ensemble. C'est comme, clic, la lumière allume. C'est que là, puis je me rappelle quand j'ai tout vu, c'était pareil. Tu comprenais pas, tu étais tout confus, puis là, boum, tout fait du sens, puis là, vraiment, on peut dire, non, tu comprends tout. C'est comme tout fait du sens, c'est comme ça vient tout ensemble, n'est-ce pas? C'est comme, hein? Moi, je me rappelle aussi, philosophe, puis on philosophe ensemble, il est philosophe, mon frère. Puis, je me rappelle, j'essaie de comprendre le sens de la vie, puis ça. Puis j'aboutissais à rien, j'étais comme, je me promenais dans le noir de même. Mais le Saint-Esprit, aussitôt que j'ai été sauvé, le Saint-Esprit m'a fait comprendre les choses. Puis c'est ça, quand on est un enfant de Dieu, on a la pensée de Christ et on comprend, c'est ça l'idée de la sainteté de Dieu qui nous enseigne. Il nous enseigne des choses qui ne sont pas dans ce monde. Comment tu passes ta vie à essayer de le chercher? Tu ne vas jamais le trouver. C'est spirituellement que ces choses-là sont discernées. Et ultimement, évidemment, le Saint-Esprit nous révèle celui qui est saint. Il nous révèle Jésus-Christ qui est complètement à part. Il n'y a pas personne comme lui. Je suis en train de lire un livre sur une religion qui est très connue dans ce monde, l'islam, qui parle de Jésus. Puis oh, on connaît Jésus, puis tout ça. Mais ils ne connaissent pas le vrai Jésus. Le vrai Jésus, il est à part. Il est mort sur la croix pour de vrai. Il est ressuscité, puis tout ça. Bon, j'apprends beaucoup sur l'islam là-dessus, là, avec ce livre-là. Mais il est saint, je veux dire, c'est pas le Jésus d'une religion, ou ici la grande religion, qui est ici la religion catholique, nous présente un Jésus qui, son sacrifice n'est pas suffisant, hein, faut faire d'autres choses en plus. Je veux dire, quand quelqu'un est sauvé, c'est le vrai Jésus qu'il connaît, le seul et unique, celui qui est saint, qui est à part. Et c'est pour ça que ça nous dit ici au verset 20, quand on a reçu l'onction de la part de celui qui est saint, on a la connaissance, on le sait. C'est pour ça que quand quelqu'un est sauvé, il sait. Si vous êtes ici, puis vous êtes sauvé, l'Esprit lui-même rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Ah, ça veut-tu dire que des fois, on ne lutte pas avec des doutes, puis qu'on a de la misère? Mais quand oui, on peut avoir des doutes, mais quand on est un enfant de Dieu, c'est l'Esprit lui-même qui va nous le confirmer dans notre esprit qu'on est un enfant de Dieu. C'est lui qui nous l'enseigne. Ça m'amène à la deuxième caractéristique de l'onction qu'on a reçue de la part du Dieu Saint. Verset 27, « Elle demeure en nous ». Regardez verset 27. « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous ». On va arrêter là parce qu'on va considérer la deuxième partie du verset après. Mais juste ici, parce que vous savez, je ne sais pas si vous avez lu 1 Jean dernièrement, mais Jean, typiquement, il met les choses en contraste. Les ténèbres, la lumière, puis tu sais, il met tout le temps le mensonge, la vérité. Il met beaucoup les choses en contraste comme ça dans tous ses écrits, beaucoup dans 1 Jean. Et ici, il met en contraste le mensonge puis la vérité, OK? Dans les versets précédents, là, il nous montre, on peut lire à partir du verset 22, « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. » Donc ça, c'est le mensonge, le menteur, et c'est incarné par l'Antéchrist, qui est celui qui représente ce mensonge-là. Tandis que la vérité, elle, verset 24, « Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. » Puis il y a tellement de références dans 1 Jean qui nous réfère à Christ comme étant la vérité, comme étant celui qui est la révélation ultime de la vérité. Maintenant, avec ce contraste-là, le mensonge et la vérité, on voit que Dieu, par le Saint-Esprit, à cause que le Saint-Esprit demeure en nous, il a pourvu parfaitement à ce dont on a besoin pour reconnaître, résister et repousser la puissance du mensonge et des menteurs. L'Antéchrist, là, les Antéchrists, ça dit qu'il y en a plus qu'un dans 1 Jean, dans notre vie. Oh, mes amis, comment c'est important en ce moment? On vit dans une époque de ténèbres, de mensonges, de tromperies, c'est incroyable. Et c'est le Saint-Esprit qui nous permet de reconnaître, de résister, de repousser la puissance du mensonge puis des menteurs dans nos vies, puis comme Église. Dieu nous ramène toujours à répondre au mensonge avec la vérité. Et la vérité, elle est dans son Fils. Le mensonge est incarné. Et ultimement, on sait que l'Antéchrist, il y a plusieurs Antéchrists, mais un jour, il y a un Antéchrist qui va apparaître. Puis là, il est l'incarnation du mensonge. Ben, Jésus-Christ, lui, est l'incarnation de la vérité. Hein? Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et ce que j'aimerais qu'on voit là-dessus, ça dit que l'onction, elle demeure en nous. N'importe où est-ce qu'on va, n'importe quelle circonstance dans lesquelles on est, n'importe quel mood dans lequel on peut être, des fois on a des hauts, des fois on a des bas, l'onction, Dieu, le Saint-Esprit, demeure en nous et nous conduit dans toute la vérité. Ça, mes amis, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est notre union avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, on est unis avec lui de façon organique pour toujours. Elle demeure en nous. Et il y a quelque chose aussi là-dedans qui est extraordinaire. Quand on voit, là, c'est ça, on voit des fois des moments difficiles dans nos vies et tout ça. On peut toujours se ramener à ce que nous sommes en Jésus-Christ. On va dire, ah, j'ai des échecs, j'ai de la misère. Je suis pas à la hauteur. J'aime pas ce que je vis, j'aime pas ce que je fais, puis tout ça. Mais est-ce qu'on peut toujours revenir à, ah, mais je suis un enfant de Dieu. Je suis racheté par le sang de Jésus. Ah, les choses vont pas comme je voudrais, puis c'est pas aussi idéal. Mais ça change pas ce que je suis. Ah, j'ai péché, mais savez-vous quoi? J'ai un avocat auprès du Père et j'ai été racheté par le sang précieux de l'agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde. Mes amis, dans les moments les plus durs de notre vie, là, c'est dans des vérités simples comme ça qu'on se ramène. Pourquoi? Parce que l'Esprit qui demeure en nous nous ramène toujours là. Il nous ramène à Jésus-Christ, il nous ramène au pied de la croix, il nous ramène à ce qu'il a fait de nous. On est des enfants de Dieu par le sang de Jésus-Christ. Autrement dit, notre identité en Jésus-Christ, notre union avec lui, c'est là-dessus tout le temps qu'on doit revenir. Parce que c'est ça qui va donner une grande assurance. En réponse aux mensonges, aux doutes, au monde, à Satan, à notre chair, c'est cette assurance qui va nous faire demeurer en lui avec une pleine assurance. Savez-vous que c'est unique aux chrétiens? Là, vous allez dire, « Ah, le pasteur va encore nous tenir avec un livre qu'il est en train de lire. » Ben oui, je vais vous tenir avec un livre que je suis en train de lire. Mais c'est un bon livre par un musulman, et j'apprends beaucoup sur la religion musulmane, puis c'est un musulman très dévot, très dévoué à sa religion, qui a été élevé, lui, d'origine pakistanaise, sa famille a immigré aux États-Unis, puis après ça, ben, son père était dans l'armée, donc ils ont voyagé un temps en Scotland, en Écosse, puis après ça, on tourne aux États-Unis, puis tout ça, puis bon... C'est vraiment intéressant, il raconte sa vie, puis vraiment, j'apprends à voir le monde à travers les yeux de quelqu'un de religion musulmane, puis j'apprends énormément, puis c'est des gens, tu sais, ils ont dit au Québec, ah, les gens, ils n'aiment pas ça parler de religion, eux autres, ils veulent parler de religion. Par moment donné, il y a quelque chose qui m'a frappé dans le livre. Il dit, j'ai rien contre ça, mais des fois, tu sais, t'as des street preachers, des gens qui prêchent dans la rue, puis tout ça, il dit... Ah, sûrement qu'il atteint des gens, mais probablement aussi qu'il en repousse beaucoup. Puis il dit, lui, tu sais, je l'entendais parler, puis on dirait qu'il était choqué après tout le monde, puis tout ça. Comment il a été gagné? Il a été gagné avec l'amitié. Puis ça a pris des années. Moi, d'ailleurs, aussi, c'est comme ça. Puis on ferait le tour. Je pense que souvent, c'est comme ça que le Seigneur a gagné beaucoup de gens au Seigneur, à lui-même. Il raconte comment, bon, son ami David, puis c'est pas mal long, là. Ça s'échelonne sur plusieurs années à travers pas mal leurs années de collège. Il parlait du Seigneur, il parlait de Dieu, puis bon, vous savez, pour un musulman, là, les trois gros obstacles là, à la chrétienté, c'est que Jésus ne peut pas être Dieu, OK, parce que Allah n'a pas de fils, OK, c'est une de leurs choses qu'ils répètent, prière, et c'est dans leur doctrine, que Jésus n'est pas mort sur la croix, OK, qu'il a été rempli, il y a différentes théories là-dessus qu'eux autres amènent, puis... aussi, ben, la Trinité. Il y en a plus que ça, mais bon, toute la Trinité, ils disent, oh, il y a trois dieux, puis ça. Bon, puis on a de la misère aussi avec la résurrection, puis ça, mais bon. Puis, juste pour dire, même s'il était sincère, même s'il y avait une foi qui, quand même, était réelle, il y avait un impact dans sa vie en passant, si vous dites, ah, oh, ça a changé ma vie, c'est pas le meilleur argument, parce qu'il y a des musulmans que. Par leur foi, leur vie a été changée pour le mieux. Malcolm X, c'est un exemple. On dit, ah, Malcolm X, c'est un musulman. Tu sais, puis on dit, ah, il était en prison, ça allait pas bien, puis avec la foi musulmane, sa vie a changé. Mais pas comme Jésus-Christ peut le faire. Voici le point que je vais amener avec ça. Ce gars-là cherchait, puis il était sincère. Puis, c'est par le Saint-Esprit, on sait, parce que, je veux dire... personne ne va au Fils si le Père ne l'attire, mais il est arrivé à se rendre compte que aussi dévoué pouvait-il être, aussi sincère, et sa religion l'aimait tant, puis tu sais, il y avait des bons principes qui l'aidaient là-dedans, mais il s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de trous, pas mal d'affaires qui ne marchaient pas. Il a découvert que Christ, la foi chrétienne, le salut en Jésus-Christ est tout à fait incomparable. Il n'y a rien comme ça. Savez-vous quoi? C'est le Saint-Esprit qui a montré ça. Et pour nous, là, je vais prendre le temps d'expliquer ça parce que c'est important. Tu sais, on est dans un temps, là, il y a tellement de bruit, il y a tellement d'affaires qu'on entend partout, puis là, les nouvelles, puis Internet, puis c'est incroyable tout ce qu'on entend, puis... Mais on a un message unique et saint et incomparable. Que les gens ont besoin d'entendre, puis quand ils s'y arrêtent, puis s'ils le reçoivent, c'est vraiment ça qui va faire toute la différence. Je veux dire, on a quelque chose qui n'est pas de ce monde. Que même les gens les plus dévoués dans leur religion et qui sont sincères ne trouvent pas. Le gars a passé une bonne partie de sa vie à chercher dans l'islam ses réponses, il n'a jamais trouvé. Il s'est retrouvé en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est juste en lui qu'on les retrouve. Puis on pourrait dire ça aussi pour des gens. Catholiques dévoués, la famille Rodriguez qui, quand on les a connus, c'était des catholiques sincères qui voulaient vraiment, pour eux autres qui connaissaient Dieu, c'était tout à travers cette religion-là. Mais, C'est juste en Jésus-Christ qu'il y a les vraies réponses. Et mes amis, s'il y a un temps où est-ce qu'on a besoin de se rendre compte de ça, les gens ont besoin de ce qui n'est pas de ce monde en ce moment. Parce que voyez-vous, de plus en plus, on voit, on a parlé longtemps des mesures puis de la peur. Là, c'est vous ce qui est une tendance qui bouge beaucoup, c'est la révolte, la colère. C'est pas plus une réponse, mes amis. Puis même le Seigneur m'a parlé là-dessus cette semaine. Tu sais, on veut pas dans l'Église rentrer l'esprit de ce monde, la peur de ce monde. Bon, on veut certainement pas non plus rentrer la colère de ce monde. Et je pense qu'on doit faire attention à ce qu'on parle quand on est à l'Église. Parce que si de l'abondance de notre cœur, on se met à tout dire ce qui marche pas, puis qu'on n'est pas content, puis que ça donne bien pas de bon sens, puis tout, quel esprit on fait rentrer dans l'Église? Je pense qu'on fait rentrer cet esprit de révolte, de colère, qu'on n'a pas besoin dans l'Église. C'est pas édifiant, c'est pas... Je veux dire, ici, c'est un lieu saint. OK, je ne veux pas dire ça avec prétention, mais c'est un lieu mis à part. Je veux dire, pas c'est un bâtiment, mais je veux dire, on consacre ce bâtiment à l'adoration de Dieu, à l'édification mutuelle. Il y a quelque chose de spécial ici qu'on veut retrouver, que ça fait... Ah, vous rappelez-vous quand on est revenu dans l'Église, puis j'ai dit, le but, on se rassemble, là. On veut que dans nos cœurs, là, ça donne un baume, ça donne une bouffée d'air frais, spirituel, puis on dit, ah, je suis tellement content d'être avec mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est édifiant, ça me fortifie, il faut que ça reste de même. Et Satan a plus qu'une corde à son arc pour essayer de nous dérouter de ça. Donc, on a arrêté avec la peur pas mal, mais attention à la colère, le murmure. Vous savez, la colère, c'est pas toujours de l'explosion. Des fois, ça peut être quelque chose qui bouille en dedans tranquillement. Et donc, que Dieu nous garde avec ça. Ça amène la troisième caractéristique de l'onction qui nous vient du Dieu Saint. Elle nous enseigne toutes choses. Regardez à la fin du verset 27. « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Quand ça dit ici qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne, je peux en lire souvent déjà dit, mais je veux quand même le répéter. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin d'aller à l'église, que tu ne devrais pas lire de livres chrétiens. Parce qu'il y en a qui disent, ah, moi, je lis juste la Bible. Parce que là, c'est des hommes. Tu sais, si on commence là-dessus, tu sais, si tu as une si haute opinion de ce que Dieu te dit à toi, pourquoi tu en as une si basse de ce qu'il peut dire à un autre puis qu'il peut te partager? Ça ne vient pas de moi, c'est Spurgeon qui avait dit ça. Mais tu sais, c'est vrai, tu sais, je veux dire, si Dieu te parle, penses-tu qu'il peut parler à un autre puis que l'autre, il peut te le partager? Tu sais, c'est ça l'idée, là, dans un livre ou dans un message ou bon. Mais ce que je veux amener ici, c'est que quand ça dit ça, on n'a pas besoin que quelqu'un nous enseigne, c'est-à-dire extérieurement, je veux dire, le vrai enseignant des enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est dans ce sens-là que tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, c'est une chose qui est ressortie dans le livre. Le pauvre gars, Nabil, il allait voir son père. Beaucoup là-bas, c'est une culture différente, culture d'honneur et de honte, là. Un peu comme la culture biblique. Nous, c'est plus une culture de culpabilité et de... En tout cas, il faisait la comparaison. En tout cas, c'est différent comme culture. Puis là, il allait voir un plus haut, puis plus haut, puis un imam, puis tout ça, pour avoir des réponses. Puis finalement, il tombait tout le temps. Il revenait bredouille. Parce que c'était juste des humains. Je suis pas encore rendu au bout qui est sauvé, mais j'ai hâte d'arriver là. Quand là, le Saint-Esprit, déjà, tu sais, on voit que le Saint-Esprit, il montrait pas mal d'affaires, puis il y avait son ami David, qui est un chrétien, puis qui partageait, mais c'est dans ce sens-là, t'as pas besoin d'aller voir un expert qui, lui, va te donner la clé secrète qui te manque à la parole de Dieu. Je veux dire, si tu vois quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, tu vas être béni, puis ça va être une... Mais t'en as pas besoin dans le sens absolu, parce que le vrai enseignant... C'est le Saint-Esprit. En passant, si tu vois deux experts, un faux et un vrai, c'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner, qui va dire lui il est faux puis lui il est vrai. Pour ça, tu sais, t'as pas besoin que quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui va te l'enseigner. Maintenant, quand ça dit qu'il nous enseigne toutes choses, il nous enseigne toutes choses qui ont rapport au fait que Dieu est saint, qu'il est incomparable. Savez-vous que c'est par le Saint-Esprit qu'on comprend qu'il n'y a pas un amour dans le monde qui est comme l'amour de Dieu?
C'est par le Saint-Esprit qu'on comprend qu'il n'y a pas une justice parfaite comme celle de Christ. C'est par le Saint-Esprit qu'on comprend qu'il n'y a pas une sagesse infiniment variée et parfaite comme celle de Dieu. Toutes les choses qui ont rapport à la sainteté de Dieu, parce que je le répète, la sainteté de Dieu, c'est une monde qui est à part, qui est incomparable, qui est pas de ce monde. Ben, on le considère dans le mois de novembre, la sainteté de Dieu, c'est une caractéristique ou un attribut englobant. Tout ce qui est de Dieu, c'est saint. C'est-à-dire, quand on parle de Dieu, là, ça va être saint, ça va être incomparable. Il n'y en a pas, parce que Dieu, il est unique, il n'y en a pas d'autre comme lui. C'est ça l'idée d'être saint. Okay? Et le ministère du Saint-Esprit, c'est de nous révéler ça à nos cœurs mêmes. Et comment c'est précieux? Vous savez, en ce moment, on parlait de ça tantôt. J'étais allé, mon frère me disait la même affaire. Le matin tôt, là, moi, c'est arrivé deux fois en allant à l'église à Sherbrooke, c'était vers quoi, 9h30, puis l'autre jour, au cours de Camille, 10h moins quart. Ça faisait la file, une bonne 10-12 de personnes qui faisaient la file à SQDC. Puis Nala m'a dit, c'était pareil, à côté de son épicerie, il y en a un. Puis les gens font la. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les vraies réponses. Parce qu'ils n'ont pas ce qui satisfait. Ils ne connaissent pas ce qui n'est pas de ce monde. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont avec ce qu'ils essayent d'eux autres de trouver le mieux, ce qui est dans ce monde. Ça, c'est un exemple, mais. Il y a des religions vaines, là-même, il y a le travail, il y a tout ça. Puis Dieu, en ce moment, dans sa bonté, est en train de sortir les gens de ça. Et voici c'est quoi l'opportunité. Là, en ce moment, les gens se rendent compte qu'il y a pas mal de limites à ce qui est dans ce monde. N'est-ce pas? Dire, là, mais il y en a qui perdent, tu sais, on se réjouit pas que les gens perdent leur travail, puis qu'il y en a qui. Il y en a qui s'enlèvent la vie, puis je veux dire, c'est des temps difficiles, il y en a qui sont découragés, puis tout ça. Mais Dieu est en train de dire, dans ce monde-là, il n'y a rien de spécial. On pourrait dire, là, dans ce monde, il n'y a rien qui satisfait. Dans ce monde, il n'y a rien de bon. Bon, en tout cas, wow. De dire, Dieu a créé toute chose, là, puis je ne dis pas qu'il n'y a rien de bon. Mais il n'y a rien de comparable à ce qui Dieu est. Et donc, on voit qu'on a une fenêtre d'opportunité en ce moment pour présenter aux gens ce qui n'est pas de ce monde, puis qui est vraiment ce qui satisfait, puis qui est incomparable. Parce que pourquoi les gens vont faire la file demain? Parce qu'ils cherchent quelque chose qui va les satisfaire. On le sait, nous, ça ne va jamais satisfaire, que ce soit ça ou que ce soit d'autres choses. Il y a juste Dieu qui satisfait. Et donc, qu'on puisse se souvenir de cela. Puis en passant, quand le Saint-Esprit nous enseigne des choses qui ont rapport à Dieu, à ce qui est saint, Il ne nous enseigne pas ces choses-là premièrement pour nous-mêmes. C'est pas centré sur nous, mais c'est centré sur lui. Il nous enseigne pour lui-même, puis c'est centré sur lui. Quand Dieu nous enseigne quelque chose, puis là, on en bénéficie, mais c'est pas d'abord pour nous le bénéfice. Dieu nous enseigne des choses pour lui, parce que Dieu veut se montrer dans ce monde. Il sort de nous, puis on est béni là-dedans, mais ce n'est pas le but. Le but de nous enseigner, le Saint-Esprit qui nous enseigne, s'il n'est pas de ce monde, c'est parce qu'il veut que ça se répande. Il veut que son message, son amour, sa vérité se répandent à travers nous. Le but, ce n'est pas pour nous-mêmes. « Ah, je sais tellement de choses sur Dieu, puis c'est extraordinaire, puis je m'assieds là-dedans. Puis... » Non, c'est parce que Dieu veut se faire connaître à ce monde. Puis regardez dans le livre d'Ésaïe, c'est incroyable, on voit ça surtout à partir du chapitre 40. Il dit, il n'y en a pas d'autre que moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Puis dans le fond, il proclame sa sainteté, il n'y a pas d'autre Dieu en dehors que moi. Dieu veut le faire connaître, puis c'est ce qu'il voulait faire connaître à son peuple, puis aussi aux nations. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. OK. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un message sur la sainte Dieu qui part sur cet angle-là, mais pas moi. Aviez-vous remarqué les choses comme au début, la sainteté de Dieu, que moi, je savais pas ça là, que quand Dieu parle de la sainteté, surtout par rapport à des choses, puis des places, puis tout ça, ça m'a moi-même surpris, mais je veux juste amener ce point-là. La parole de Dieu est inépuisable, elle est merveilleuse. Et c'est le Saint-Esprit qui nous l'enseigne. Et je me suis rendu compte que le point de départ incontournable pour étudier la sainteté de Dieu, comment il est unique, comment il est incomparable, c'est partir avec celui qui nous le révèle, le Saint-Esprit. Donc, voici c'est quoi mon appel ce matin à la lumière de ce qu'on a vu. S'il y en a ici qui ne sont pas sauvés, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle qui Dieu est. Qu'on est dans le trouble à cause de ça, puis qu'il y en a un seul qui a une justice qui se tient devant Dieu, et c'est Jésus-Christ. C'est pas moi qui l'a, c'est Christ qui l'a. Et qu'un jour va venir le jugement, puis c'est, la question, c'est pas qu'est-ce que vous avez connu comme doctrine et tout ça, c'est qu'est-ce que vous avez cru. Avez-vous cru à votre propre justice ou à celle de Christ? Et on voit beaucoup dans l'Ancien Testament, je connais en fait ceux qui l'ont connu, il est avec le Seigneur maintenant, mais pasteur Ryu a été sauvé, il avait lu toute la Bible avant d'être sauvé, puis j'ai lu l'Ancien Testament, puis Dieu m'a montré avec l'Ancien Testament comment il est saint. On voit, on s'approche pas n'importe comment, Dieu, sûr quelque chose qu'on apprend dans l'Ancien Testament, wow, Dieu c'est pas n'importe qui là. Tu sais, comme Uza qui fait juste toucher l'arche, boum, il est frappé. Les fils de Aaron qui amène un feu étranger, boum, sont frappés. Dieu nous montre sa sainteté. On ne s'approche pas de lui n'importe comment. En fait, Dieu nous a donné, on s'approche de lui par son Fils. Donc, si vous n'êtes pas encore sauvé, il faut que vous passiez par le Fils, par le seul moyen d'être sauvé. Et pour vous ici qui êtes enfants de Dieu, qui avez l'Esprit de Dieu, qui avez l'onction qui demeure en vous et qui vous enseigne toutes choses, l'onction qui vient du Dieu Saint, voici c'est quoi mon appel ce matin. De la même manière que le Saint-Esprit nous a convaincus de notre besoin de Jésus-Christ pour le salut, j'espère que nos cœurs ne sont pas endurcis au point qu'on ne se rend pas compte à quel point on en a besoin à tous les jours et tout le temps. Paul, il dit « Christ est ma vie ». Il dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Oh, qu'on s'endurcisse pas à cette réalité, à ce grand besoin qu'on a de demeurer en lui, que ses paroles demeurent en nous. Et je crois que ce qu'on a besoin, c'est que le Saint-Esprit nous révèle d'une façon fraîche et renouvelée comment notre Dieu est merveilleux, incomparable, unique, qui nous révèle notre Dieu qui est saint. C'est ce qu'on va prendre le temps de faire dans le mois de novembre, on va s'arrêter là-dessus. Et du coup, on peut avoir toutes sortes de messages, on peut lire toutes sortes de choses, mais ultimement, c'est Dieu lui-même qu'il faut qu'il nous le convainque. C'est Dieu lui-même qu'il faut qu'il nous l'enseigne. C'est une grande vérité de la vie chrétienne. Regardez les réveils, comment c'est arrivé. Ah, il y avait un travail, les gens priaient, cherchaient Dieu. Mais c'est quand que les choses se mettent à se passer. C'est quand le Saint-Esprit révèle les choses. C'est quand le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il révèle la sainteté de Dieu. Puis comment on est loin de ça, puis comment revenir à Dieu, c'est tout ce qu'on a besoin. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Seigneur, merci qu'on a pu prendre quelque temps, un moment pour s'arrêter avec ta sainte parole et le fait que tu nous révèles comment tu es incomparable, unique, saint. Et Seigneur, on prie que tu le révèles à nos cœurs. Et ce monde a besoin de ce qui ne vient pas de ce monde, a besoin de rencontrer ce Dieu saint, ce Dieu unique, merveilleux, qui vraiment amène les vraies réponses, la vraie satisfaction, le vrai salut. Seigneur, sanctifie-nous pour ton usage dans ces temps de la fin, dans cette heure de ténèbres, que ta lumière sainte, parfaite, puisse luire à travers ton peuple. Seigneur, on continue de t'importuner que tu puisses faire une œuvre de grâce extraordinaire à travers ton peuple pour te faire connaître, Seigneur. Nous sommes ton peuple et on veut s'humilier devant toi, te confesser nos péchés, chercher ta face, se détourner de nos mauvaises voies, afin que tu fasses les choses que juste toi peux faire, les choses grandes et cachées. qu'on ne connaît pas. Seigneur, bénis ce temps de réponse à ta parole. Et oui, sanctifie ton nom, sois sanctifié au milieu de nous aujourd'hui. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez l'occasion maintenant de répondre dans la prière.